C'est notre rendez-vous avec Annie Boilard. On parle de la vie et le monde au travail. Bonjour, Annie.
Bonjour, Anne.
Annie, aujourd'hui, tu vas nous parler de dopage cognitif au travail.
Oui. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ça, Anne?
Non, c'est la première fois.
Première fois.
Oui.
Alors, il y a une étude anglaise qui a été conduite dans 15 pays dans le monde, incluant dans le Canada. Puis cette étude démontre que 14 % des employés ont recours à des stimulants pharmaceutiques non prescrits pour tenir le coup au bureau. Puis ah. Ça, là, le fait de consommer des médicaments qui sont non prescrits, c'est ça qu'on appelle le dopage cognitif.
Okay.
C'est vraiment pour améliorer artificiellement ses compétences cognitives que les gens utilisent ça. Et nous, en ressources humaines, évidemment, ça nous préoccupe parce que il y a beaucoup derrière ça, là, au niveau de la santé des employés. C'est aussi un indicateur qu'il y a des malaises, qu'il y a des soucis dans les équipes de travail. Donc, ça attire beaucoup notre attention.
Annie, pourquoi les employés ont-ils recours à des substances pharmaceutiques non prescrites au travail?
Bien, on va se le dire, Anne, de tous les temps, on a utilisé des substances comme du café, des boissons énergisantes, certains ce sont des vitamines, pour se donner un petit peu d'énergie, OK?
Oui.
Ça, bien, c'est simple, ça n'a pas de gros effets. Mais là, ce qui se passe, c'est que les comprimés pharmaceutiques dont il est en cause, c'est qu'il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, du Ritalin pour améliorer leur concentration, du propranolol pour diminuer leur stress. Ils vont utiliser aussi des substances pour stimuler leur créativité. Puis là, on sait que ces produits-là, notamment là, pour ce qui est du Ritalin, Concerta et compagnie, ce sont des neurotransmetteurs. Puis quand ils sont assignés à une personne qui a une prescription, qui a vraiment un TDAH, bien, ça va permettre à son cerveau de fonctionner normalement. Mais quand c'est pas le cas, parce que ça crée c'est une hyperconcentration où ça augmente l'énergie des gens, puis c'est ça qui est recherché là, par les employés.
Tout ce dont tu viens de parler, là, ce n'est pas sans risque. Quels sont les effets secondaires que ressentent justement les employés qui font ça?
Je trouve ça intéressant la question, Anne, parce que les gens pourraient se dire, ben oui, mais tous ceux qui consomment ces médications peuvent avoir des effets secondaires. Lorsqu'on n'a pas la pathologie au départ, c'est que l'effet positif de la médication est plus éphémère, puis que les effets négatifs, les effets secondaires, eux, s'accentuent. Puis l'autre chose, c'est que les gens s'habituent plus rapidement, fait qu'ils ont besoin d'accroître leur posologie continuellement là, pour avoir le même effet.
Ouais.
Donc non, c'est pas la même chose de prendre ces médications là, avec ou sans pathologie. Ce que les gens témoignent, c'est qu'ils nous disent qu'ils ressentent de l'insomnie. Ils vont vivre des pertes d'appétit, de la fatigue.
Okay.
Là, nous, en ressources humaines, on le sait, là, ça l'entraîne de l'irritabilité, de l'impulsivité. Puis là, Anne, tu me vois venir, là. Ça, c'est le berceau des tensions relationnelles au travail.
Ouais.
Après ça, ça peut donner naissance à des conflits.
Mm-hmm.
Pour ça, c'est important. Puis là, je te parle des effets secondaires, mais il y a une famille, là, les bêta-bloqueurs, je t'en ai pas parlé.
Non.
Ça, c'est ce que ça vient faire, c'est pour ceux qui ont des crises d'anxiété. Fait que c'est pour diminuer l'hyperactivité du cœur puis la perception du stress. Mais un des effets secondaires, c'est la baisse de la pression artérielle.
Donc
on voit là, toujours il y a quelque chose avec ça.
Mais Annie, comment tout ça peut commencer au travail, dans des équipes?
Souvent, c'est la curiosité. Puis je t'assure, Anne, avant d'en parler à ton micro, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'on fait la bonne chose? Parce que justement, on ne veut pas éveiller cette curiosité-là. Mais d'un autre côté, on s'en parle parce que 14 % des employés, ça commence à être significatif.
Ouais.
Moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est qu'il y a deux façons dont ça s'initie dans les équipes. La première chose, ce sont les étudiants qui ont développé l'habitude d'utiliser ces substances pendant qu'ils étaient sur les bancs d'école. Là, ils arrivent dans les milieux de travail puis ils continuent. Fait que ça, c'est la première façon que je l'ai vu. L'autre chose, c'est les parents d'enfants qui consultent pour des diagnostics de TDAH. Puis une fois qu'ils ont un diagnostic positif, là, évidemment, ils sont titillés par la partie héréditaire de la chose. Et puis, parfois, c'est comme ça qu'ils légitimisent pour eux d'utiliser leur propre consommation. Ils vont se nourrir, par exemple, dans les médications de leurs enfants.
Mm-hmm.
Ça, c'est souvent une deuxième façon dont ça comment ça rentre dans les équipes.
OK. Est-ce qu'il y a des industries qui sont plus impactées que d'autres?
On a encore peu d'études sur le sujet, mais Le Devoir publiait récemment un article qui nous disait qu'aux États-Unis, 30 % des camionneurs utilisent ces substances-là.
Mm.
Les gens en finance, 19 % Les chirurgiens, 20 % Mais moi, la statistique qui m'a fait tomber par terre, Anne, les musiciens. 72 % des musiciens ont recours à ces substances-là, soit avant un spectacle ou avant une audition.
Oh là là, c'est beaucoup, hein?
Énorme.
Annick, en terminant, que peuvent faire les équipes confrontées à une telle situation?
Bien, d'abord, il faut en parler. Il faut en parler avec son gestionnaire, avec les équipes de travail. Souvent, là, il y a des perceptions derrière ça. C'est que les gens vont avoir l'impression, par exemple, que tout le monde, les autres sont tellement meilleurs qu'eux. Donc, ça fait qu'il y a une question de perception. Ou encore, vont avoir l'impression que les objectifs qui sont imposés par le gestionnaire sont immuables. T'sais, il faut absolument faire ça. Alors que dans les faits, il y a de la flexibilité. On est capable d'en parler. Mais ça commence par parler. Si les gens ne peuvent pas parler de leurs habitudes de consommation de médicaments, ils peuvent toujours parler du malaise, parce que derrière cette consommation-là, à la source, il y a un malaise, il y a un inconfort, il y a une perception. Et ça, ils peuvent définitivement parler avec leur employeur. On se rappelle que la CNESST a l'obligation de veiller à la santé des employeurs, oui. Des employés, pardonne-moi. Mm-hmm. Donc, l'employeur va avoir oreille, obligation là, d'avoir cet intérêt-là.
Parfait. Un gros merci, Annie Boilard. Encore une fois, on va se retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une très, très belle semaine.
Toi aussi, Anne. Au revoir.
Merci, au revoir.